franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et à la une de la science aujourd'hui, les tests anti-pollution avec la bombe qui a explosé jeudi dernier dans la voie de Ségolène Royal.
Les tests montrent des dépassements de normes pour le CO2 et pour les oxydes d'azote sur des modèles concernant plusieurs constructeurs étrangers et un constructeur français. Les tests doivent donc donner lieu à des éclaircissements en lien avec les constructeurs qui se sont dit favorables à la poursuite de ce travail. Renault a accepté de venir devant la commission la semaine prochaine pour dire comment il allait remédier à ces dépassements des normes.
Alors, qui sont les tricheurs? C'est la question que tout le monde se pose. Et comment, surtout, font-ils pour tricher? Bonjour Frédéric Blanc.
Bonjour.
Vous êtes juriste pour l'association UFC Que Choisir et membre de la commission technique mise en place par le ministère de l'écologie. Bonjour Hervé Kempf.
Bonjour Mathieu.
Quel était le but de cette commission, Hervé, née après l'affaire Volkswagen en septembre dernier?
Eh bien effectivement, il faut rappeler qu'en septembre, Volkswagen avait reconnu que ce constructeur utilisait un logiciel pour tromper les dispositifs de test des émissions polluantes. Autrement dit, les véhicules, un certain nombre de véhicules diesel de la gamme Volkswagen émettaient bien au-dessus des normes d'anti-pollution, notamment sur les oxydes d'azote. C'était un enjeu économique énorme, puisque 11 millions de véhicules Volkswagen étaient concernés. Évidemment aussi un enjeu sur la santé extrêmement important, puisque les oxydes d'azote et d'autres polluants ont des effets sur l'asthme et sur les maladies respiratoires. Dans la foulée du scandale, donc, des questions se posaient sur les constructeurs français. Et la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, annonçait la création d'un comité technique présenté comme indépendant pour analyser ces tests. Une question parfaitement légitime. Il s'agit aussi de savoir si d'autres constructeurs n'ont pas triché, puisque, comme le révélait Reporter, en présentant des études originales allemandes, les véhicules, certains véhicules de la gamme Renault et de la gamme Nissan avaient des taux de pollution beaucoup plus élevés que ceux que prédisaient les tests.
Alors Frédéric Blanc, ce travail d'investigation n'est pas fini. Bien sûr, les premiers résultats ont été dévoilés et apparemment donc Volkswagen n'est pas le seul constructeur dont les véhicules dépassent les seuils de pollution.
Absolument. Alors en tout cas, en fonction des premiers tests qui ont été menés par la commission, on voit en effet des anomalies qui posent vraiment question et qui montrent qu'en effet le cas Volkswagen n'est pas isolé.
Trois constructeurs étrangers, un français, c'est ça a priori?
D'après les dires de la ministre, il semblerait.
Quels sont les tests qui sont menés sur les voitures pour contrôler leur émission de CO2 et d'oxyde d'azote?
Alors, ça a été donc un protocole qui, pour la première fois, est innovant, parce que c'est la première fois qu'on met en place un protocole de vérification, puisque il n'y avait pas vraiment de test de conformité des allégations faites par les constructeurs. Donc là, on a mis en place un protocole qui a commencé à d'abord s'intéresser aux trois véhicules qui étaient identifiés comme fraudés, afin de voir si on pouvait détecter à travers un système de leurre dans le cadre du test d'homologation classique, donc où on, par exemple, au lieu de respecter parfaitement la position du volant ou des pneus, on va modifier un peu pour éviter qu'un éventuel logiciel détecte qu'on est en test, qu'on calcule les émissions du véhicule, on a mis en place ça pour vérifier si en effet les véhicules du Volkswagen étaient positifs, détectés positifs à ce protocole. Ça avait été le cas, et donc on a pu élargir à une dizaine de véhicules cette phase de test, et il semblerait que d'autres véhicules présentent les mêmes anomalies que ceux qui étaient viciés identifiés comme viciés par Volkswagen.
Est-ce que ces tests reflètent vraiment la manière dont un humain conduirait sa voiture?
Ah non, là on est complètement dans les tests en laboratoire, c'est-à-dire sur bande à rouleau, où le test d'homologation prévoit des conditions de conduite et de conditionnement du véhicule qui est totalement déconnecté de la réalité. On va prendre des exemples. Par exemple, quand il commence le test, pour calculer les émissions du véhicule, le moteur est chaud, alors qu'en général notre moteur est froid dans la vie quotidienne quand on démarre le véhicule. Deuxième exemple, par exemple, il faut atteindre en 13 secondes 50 km/h. J'aimerais bien savoir quel automobiliste arrive, même s'il se concentre au mieux, arrive à atteindre en 13 secondes 50 km/h.
Il faut beaucoup de patience.
Donc c'est pour vous montrer qu'il y a un vrai décalage entre ce qui est pris en compte dans le cadre des tests d'homologation pour calculer les émissions des véhicules et ce qui est la vérité chez les consommateurs.
Et c'est des décalages qui nous amènent à plus d'émissions?
Et c'est des décalages, bien évidemment, qui augmentent en effet les émissions dans les différentes cas de figure. Que ce soit en CO2 ou en NOx, c'est en effet des vraies conséquences.
Hervé Kempf, on entend bien Frédéric Blanc qui n'a pas le droit de nous donner les résultats détaillés des tests pratiqués en ce moment par la commission sur les véhicules de la marque Renault. Mais les laboratoires allemands ont, eux, rendu publics leurs résultats.
Oui, tout à fait. Et nous l'avions publié en septembre dernier. Ce qu'il apparaissait, c'est que les 10 véhicules les plus polluants et parfois à des degrés extrêmement importants, 15 fois au-dessus de la norme de 80 mg d'oxyde d'azote par kilomètre, eh bien, sur ces 10 véhicules, il y avait 4 véhicules de la gamme Nissan et Renault, dont le premier, Nissan X-Trail 1.6 DCI. Oui. Et puis, en deuxième position, un Volvo. Et puis, en troisième position, le Renault Espace Énergie DCI. Ce Renault Espace Énergie DCI, il est très intéressant puisque une autre organisation allemande a voulu aller plus loin et a confié une étude à l'université de Berne, un laboratoire spécialisé, qui a trouvé que ce Renault Espace 1.6 DCI dépassait vraiment jusqu'à 25 fois la norme autorisée.
Est-ce que des dépassements importants, Frédéric Blanc, vis-à-vis des seuils de pollution sont forcément associés à une tentative de fraude ?
Ah non, pas du tout. Enfin, surtout que là, dans l'exemple que vous citez, il y avait aussi un contrôle en conditions réelles. C'est-à-dire, c'est normal qu'on trouve pas le même chiffre dans le cadre d'un test en conditions réelles que par rapport à un test en laboratoire, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, puisque c'est pas du tout les mêmes usages et les mêmes façons de conduire. Donc, qu'il y ait des décalages, c'est normal. Mais de là à ce que ce soit x15 ou x25, la différence, alors que pour certains véhicules, on peut détecter une très peu de différence entre le test en laboratoire et le test en conditions réelles, pose question. Et en tout cas, on ne peut pas en déduire qu'il y a tricherie. On peut simplement en déduire qu'il y a des anomalies qui posent sérieusement question et qui, ça nécessite donc de passer à une phase 2 d'approfondissement des tests et d'investigation plus généralement d'ailleurs, afin de savoir exactement si c'est lié à une manipulation, à une erreur dans le protocole qui nécessiterait de le refaire, ou surtout si c'était par rapport à un véhicule déterminé qui n'est pas le cas de tous les véhicules de la gamme ou de la version de tel ou tel constructeur. Donc il y a encore des incertitudes, mais c'est vrai que les anomalies qui ont pu être détectées, que ce soit en conditions réelles quand ça multiplie au-delà de x5, quand on arrive à du x10, x15 par rapport au laboratoire, au test en laboratoire, là on peut sérieusement se poser des questions. Mais on n'a pas fait que ce seul type de protocole. Hein. On a bien sûr aussi mis en place un protocole de l'heure, comme je vous l'ai dit, qui compare un test en laboratoire avec un autre test en laboratoire de la même façon, totalement identique, mais où juste on va changer la position des roues, du moteur, changer un peu la température du moteur également, pour essayer d'éviter qu'un logiciel éventuel détecte qu'il est en test, et ce qui montre que en effet, là aussi, on a détecté des anomalies. Donc, vous voyez bien qu'il y a plusieurs éléments qui nous permettent de détecter des présomptions de fraude. Mais en revanche, pour l'instant, il est très difficile de savoir exactement quelle manipulation a été faite par les constructeurs. Je rappellerai qu'aux États-Unis, c'est un aveu de Volkswagen et non grâce à l'investigation des autorités américaines qu'on a pu savoir que c'était fraudé. Hein. Ils avaient détecté des anomalies, mais ils ne savaient pas exactement quelle manipulation ni quoi que ce soit.
Hervé n'est pas tout à fait d'accord avec vous, oui. Frédéric Blanc.
Pas tout à fait, Monsieur Blanc. Si on reprend l'histoire, on voit que l'association ICCT avait joué un rôle extrêmement important dans les tests et a averti l'EPI et l'agence américaine de l'environnement. Et il y a eu beaucoup de négociations pendant toute l'année 2014 et au début 2015 avec Volkswagen. Donc voilà.
En tout cas, la commission va rendre tous ses résultats marque par marque et véhicule par véhicule au printemps. Et vous allez suivre cette affaire de près sur Reporter.
Tout à fait. Hervé, hein. Et même tout prochainement.
Avec un dossier toujours.
Et une interview de l'homme au cœur de cette affaire.
Reporter.net pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Merci beaucoup Frédéric Blanc pour vos éclairages. Merci Axel.
À demain.
À demain.